بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, le dimanche, le 27 du mois Sha'ban de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 15 février 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre cette lecture dans Risala de l'imam Ibn al-Qayyim, Risala de Ibn al-Qayyim ila ahadi ikhwanihi, qu'il a adressé à un de ses frères qui lui a demandé conseil. Et on s'était arrêté sur le passage dans lequel, toujours en commentant ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que ceux qui arrivent à des degrés élevés dans la religion et qui sont pris comme des guides et des modèles dans la religion, c'est des gens qui ont pris à leur tour leurs prédécesseurs, leurs pieux prédécesseurs comme des modèles et des exemples. Et non pas comme vous trouvez chez les soufis, celui qui est pris comme modèle, c'est celui qui va inventer une nouvelle chose. Il va venir avec un dhikr spécifique à lui. Et de toute manière, c'est obligé chez les soufis, obligé pour fonder une tariqa, tu dois avoir tes rituels spécifiques. Yani, c'est pour ça, Tijaniya, ils ont ce qu'on appelle l'ouird Tijani. C'est des invocations qu'ils doivent dire et qui ne sont pas rapportées du prophète alayhi sallam. Lakin, pour induire en erreur les gens, ils leur disent que leur cheikh a pris ces invocations du prophète alayhi sallam. Certains ils disent pendant son sommeil, il a vu le prophète alayhi sallam, il lui a donné ces invocations. Et d'autres ils disent, ils ont plus d'audace. Ils disent non, il a pris ça du prophète alayhi sallam en étant en état d'éveil. Il l'a vu réellement. Le prophète alayhi sallam est sorti de sa tombe, il est venu chez lui et il lui a donné ces choses-là. Yani, il faut être à un niveau d'ignorance. C'est pour ça, yani, ceux qui suivent Sophia, d'une manière générale, c'est des gens qui sont très ignorants de la religion. Et ceux qui ont de la science parmi eux, en général, c'est ceux qui sont suivis. Lakin, ceux-là, ils ont des intérêts. Yani, tu veux suivre une tariqa Sophia, quelle que soit cette tariqa, obligé, tu dois donner de l'argent. Yani, tu ne viens pas comme ça gratuitement. Et plus tu as d'argent et de richesse, plus tu seras respecté chez eux. Et plus tu auras la possibilité de rencontrer le grand cheikh. J'ai déjà vu des vidéos de rappeurs, ou là, des choses comme ça, qui se sont, entre parenthèses, réformés, alhamdoulilah, plus ou moins, et ils ont adhéré à des sectes soufis, comme ça. Et à cause de leur richesse et de leur fortune, ils sont accueillis dès le premier jour par cheikh de tariqa, personnellement. Le chèque qu'il va donner est conséquent. Alhamdulillah qui nous a préservé de tout ça et qui nous a permis de voir la vraie religion de l'islam. La vraie religion de l'islam dans laquelle il n'y a pas un cheikh qui a une autorité à changer les textes ou à rapporter ou à diminuer. L'islam, c'est suivre le Coran et la sunna du prophète alayhi sallam avec la compréhension des compagnons. C'est ça le vrai islam. Et l'islam qu'Allah aime et agrée. C'est l'islam qui a été pratiqué par Abu Bakr Siddiq. Et non pas l'islam qui est pratiqué par Ahmed al-Tijani. Après, Allahu a'lam, est-ce que c'est Ahmed al-Tijani qui leur a enseigné tout ça? Ou c'est eux qui ont inventé ça après lui? Allahu a'lam. En tout cas, leur rituel, leur pratique comporte énormément d'égarements. Au point où le grand savant marocain Mohamed Taqi Dil Hilali, qui était un adepte de Tariqa Tijaniya depuis son enfance, qui a grandi dans ça, quand il parle de lui, il dit « quand j'étais associateur, quand j'étais mushrik ». Il parle de cette phase de sa vie comme quoi il était dans shirk. Lakin, il était ignorant. Pourtant, il mémorisait le Coran en entier. Il faisait qiyam layl pendant de nombreuses heures durant la nuit. Tout jeune. Et si vous lisez son magnifique livre, الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة, vous allez voir des choses incroyables. Il se décrit à cette époque-là. Rahimahullah. Lakin, ça ne nous autorise pas à dire de chaque soufi qu'il est kafir. Non. La règle de base, c'est que tous les soufis sont muslimines. C'est ça la règle de base. C'est qu'ils sont muslimines, mais ils ont des égarements, chacun selon son cas. Lakin, soufia, ce n'est pas la sunna. Ça, c'est une certitude. Soufia, depuis son début, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais été sur la sunna à 100%. Lakin, soufia, contemporain, ce n'est pas comme les soufis d'avant. Les soufis contemporains ont adhéré à ces méthodes soufis pour dunya, pour l'argent. Alors que les premiers, ils l'ont fait par ascétisme et par délaissement de dunya. Et malgré cela, il commençait à y avoir des choses qui les éloignaient de la sunna du prophète, lakin ça restait minime. Par exemple, quelqu'un, il sourit jamais. Ça, ce n'est pas une qualité. Quelqu'un qui se prive de manger un gâteau. Ça, ce n'est pas une qualité. Yani, sahaba, ils ne mangeaient pas ces choses-là, pas parce qu'ils ne les, ils les mangeaient pas. Ils ne les avaient pas. Il y a des sahaba qui s'habillaient avec, sauf avec la laine, lakin, yani, c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix. Alors que ces gens-là, ils vont faire ça exprès, pour montrer leur ascétisme. Et l'ascétisme, ya ikhwa, il a lieu dans le cœur, et non pas sur l'apparence. Tu peux porter des beaux vêtements et être un grand ascète. Ad-dunya n'a pas de valeur dans ton cœur. Et tu peux porter des vêtements déchirés, usés, et être un parmi ceux les plus attachés à ad-dunya. C'est juste que tu ne l'as pas. Donc l'ascétisme, c'est un acte du cœur, et non pas un acte de l'apparence. Quelqu'un peut rouler en une voiture de luxe et être un ascète. Lakin, bien évidemment, c'est plus difficile que quelqu'un qui est dans un état de modestie d'une manière générale. C'est pour ça que Salaf, ils n'avaient pas, même ceux parmi eux qui avaient accès à la lecture, ils ne le faisaient pas. Ils restaient dans un état modeste. Car ça aide à avoir la modestie et avoir l'ascétisme dans le cœur. C'est plus facile. Donc, toujours en parlant de ce verset, dans lequel nous avons vu que ceux qui sont pris comme des guides et des modèles, ce sont ceux qui ont la certitude dans leur science et qui sont armés de patience et d'endurance et qui contribue dans la guidée des autres, et qui le font avec ce que Allah a révélé, et non pas avec ce que Cheikh a vu dans ses rêves. Vous savez que personne ne peut changer un jugement du prophète sallam avec un rêve. Les rêves, au mieux, c'est des choses qui donnent des bonnes nouvelles, là, qui ne ramènent pas des nouveaux jugements dans la religion. Il y a des choses très très importantes à connaître par rapport au rêve. Celui qui a vu le prophète dans son rêve, il l'a vu réellement, à condition d'être capable de le décrire. C'est pour ça que quand quelqu'un venait leur dire « J'ai vu le prophète, il m'a dit qu'il est le prophète », il lui dit « Décris-le ». S'il le décrit comme il est réellement, il lui dit « Tu l'as vu ». Et sache que le prophète ne va jamais t'autoriser ce qu'il a interdit pendant son vivant. Ça, c'est parmi les signes que tu n'as pas vu le prophète A.S. Tu as vu Shaitan. Shaitan ne peut pas prendre l'apparence du prophète A.S. dans un rêve. Là, il peut très bien venir et te dire « Je suis le prophète A.S. » et tu ne vois rien. Le plus souvent, ces gens-là, ils disent « J'ai vu une lumière, mais je n'ai pas vu un visage. » Et de toute manière, il n'y a pas de jugement qui est basé sur un rêve. Les jugements sont basés sur le livre d'Allah, la sunna de son prophète A.S., authentique, avec la compréhension des compagnons, qu'Allah les agrée tous. Donc il a parlé, Cheikh Al-Allama, l'imam Ibn Al-Qayyim, il a parlé du premier point qui concerne la certitude, et du deuxième qui concerne la patience. Et on s'est rendu au troisième dans lequel il a parlé de la guider des créatures et de les appeler au suivi de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et au suivi du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et parmi les versets qui représentent des règles d'or dans le domaine de la da'wah. C'est pour ça, si on rencontre un tabliri qui a une bonne intention, qui veut appeler les gens à la religion de l'islam, nous lui disons d'abord, avant de propager la religion, tu dois l'apprendre. Et avant d'aller voyager au Brésil et en Turquie, commence par les membres de ta famille. C'est comme ça qu'a agi notre prophète, alayhi salam. Il a commencé par les plus proches. « وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ » Est-ce que vous ne lisez pas le Coran ? Ce que Allah a ordonné à son prophète, alayhi salam, il lui a dit de commencer par les plus proches et d'élargir le cercle petit à petit. Ça, c'est la da'wah. Nabi, alayhi salam, nous a tout enseigné par rapport à la da'wah. Personne n'a inventé quoi que ce soit dans la da'wah. La da'wah, ya ikhwa, c'est la fonction principale d'un prophète. Alors, il ne faut pas s'imaginer un instant que Nabi Aslam ne nous a pas enseigné comment on fait la da'wah. Donc la première chose, on doit apprendre la religion avant de la propager. Lakin, il n'est pas demandé d'arriver au degré de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah pour propager la religion. Je propage ce que j'ai appris avec science. Et je ne parle jamais sans science de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est parmi les péchés les plus graves qui existent en islam. Tu ne sais pas, dis je ne sais pas. C'est la moitié de la science. Combien de fois l'imam Malik, il disait je ne sais pas. Cet homme qui lui a posé une quarantaine de questions, il a répondu à quatre. Le reste, il a dit je ne sais pas. Donc il ne faut pas être gêné de dire je ne sais pas. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. La moitié de la science. Ça indique la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi alayhi salam, combien de fois il a pas répondu. Il a attendu la révélation. Après, il a donné. Il est où celui qui m'a posé la question tout à l'heure? Un tel, voilà la réponse. Et pourquoi toi, tu vas être gêné de dire je ne sais pas? Les anges n'ont pas été gênés. Ils ont dit Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal 'alimul hakim. Les grands imams n'ont pas été gênés. Donc, il faut qu'ils apprennent d'abord et qu'ils commencent par les plus proches et qu'ils commencent par le plus important. Et le plus important en islam, c'est le tawhid. Il faut que tu l'apprennes et que tu l'enseignes à ton entourage, tes parents, ton épouse, tes enfants, tes frères et sœurs, et ainsi de suite, tes amis. Quand on est des assises, on s'assoit, on va apprendre quelque chose de tawhid. On va lire dans un livre, par exemple, qui tient le tawhid. Ce livre précieux, celui qui l'a maîtrisé, il aura maîtrisé tawhid l'ibada. La partie la plus importante dans laquelle il y a le plus de dérives, dans l'unicité d'Allah. L'unicité de la divinité. L'unicité de l'adoration. C'est un livre précieux qui te dévoile beaucoup de formes d'associationnisme que les gens ignorent et les exemples qu'ils citent, c'est des exemples de notre réalité, qui correspondent aux formes d'associationnisme qu'on a à notre époque. Il ne va pas te parler d'une forme d'associationnisme qui a totalement disparu. Non, c'est des choses que tu as au quotidien. Dans la plupart des pays de l'islam, vous les trouvez partout où vous allez. Dès que tu échanges un petit peu avec une personne, il va te dire des choses comme ça. Donc, c'est très important d'apprendre. Et que da'wah soit basée sur la science. Et tout ça, c'est résumé dans un seul verset. C'est pour ça, ce verset, c'est un verset très important pour toute personne qui aimerait faire cette fonction tellement noble qui est la fonction de tous les prophètes et messagers, la da'wah. Dans lequel il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Dit, voici ma voix. Quelle est la voix du prophète عليه السلام? On aimerait tous suivre la voix du prophète عليه السلام. Donc Allah il lui dit, dis-leur, voici ma voix. Pour celui qui veut suivre la voix du prophète عليه السلام. C'est quoi la voix du prophète عليه السلام? La réponse, elle est dans le verset. Il dit, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. J'appelle vers Allah. Je n'appelle pas vers une secte. Je n'appelle pas vers un cheikh. Je n'appelle pas vers un hizb, un parti. J'appelle vers la religion d'Allah seulement. Ad'u ilallahi, et je le fais avec science. Ala basiratin. Et justement, on était dans al-basira. D'appeler avec science et clairvoyance. On n'appelle pas avec l'ignorance. Man kana da'watu la taqoum 'ala al-'ilm fa ma yantuj 'anha min ad-dalal wa al-inhiraf akthar mimma yantuj 'anha min al-khayr. Celui dont la da'wa n'est pas basée sur la science, il va faire plus de mal que de bien et plus de dégâts que de bien. Et ça vous le constatez chez les tablighines. Ils ferment les yeux, ils ont des règles, mais yani pour celui qui veut connaître cette secte, et ne soyez pas leurré par l'apparence des gens qui se déplacent d'une ville à une autre. Il y a des lois très précises qui les gèrent dans le monde en entier. C'est une vraie secte, c'est une vraie organisation. Si, celui qui veut connaître cette secte, yani si je peux lui recommander un seul livre, c'est le livre de Cheikh Taqi Hilali, le Marocain, le grand savant Salafi, qui les a connus de très très près en Inde. Et lui, il parle l'ourdo, la langue des Hindous. Il parle leur langue. Il a appris leur langue pour leur faire da'wa. Et il a été face à des murs. T'arrives à un degré, ils n'acceptent pas la science, ils n'acceptent pas les hommes de science. Ils disent, on est comme un train qui a pris un point de départ et qui va arriver vers une fin. Tu ne peux pas l'interrompre en cours de route. C'est pour ça qu'ils disent, quand tu fais un khourouj, tu vas vers une autre ville et que tu es un proche dans cette ville-là, il ne faut pas aller lui rendre visite. Ça va corrompre ton intention. Wal'iyadhu billah. Rendre visite à un membre de la famille va corrompre ton intention. Un acte de bonté va corrompre ton intention. Et ça, c'est parmi les règles du sectarisme d'une manière générale. Donc, la da'wa doit être faite avec science. على بصيرة قال ابن الأعرابي البصيرة الثبات في الدين. البصيرة, il rapporte plusieurs paroles de salaf qui définissent ce que c'est le basira. C'est pas si on a vu que le basira pour les yeux, pour le cœur, c'est comme la vue, comme le basar pour les yeux. Lakin, si ça n'a pas été dit, il va certainement le dire. طيب. البصيرة الثبات في الدين. البصيرة a été expliqué par l'imam Ibn al-Arabi. Ibn al-Arabi, c'est parmi les grands imams de la langue arabe, de salaf. Et tous les salaf, sans exception, tous les grands imams de salaf, sans exception, tous les grands savants de la langue arabe, il n'y a pas une seule exception. Tous, ils étaient sur la croyance de salaf. À commencer par Ibn al-Arabi, l'imam Khalil ibn Ahmad al-Farahidi, le cheikh de Sibawayh, Sibawayh également, le très grand savant de la langue arabe, dont le livre s'appelle Al-Kitab, le livre. Le livre le plus précieux dans la science de Nahou et de Sarf, et des sciences de la langue arabe d'une manière générale, car il traite toutes les sciences de la langue arabe. Les sciences de la langue arabe sont au nombre de 14. La plupart de ces sciences sont traitées dans ce livre, y compris les 100. Et ça, c'est une science en langue arabe. Le mot exprime une partie de sa signification. Quand tu dis « c'est pas bien. Quand, regardez le prénom, Hanan, C'est doux, comme son sens. Et allez, en tout cas, c'est une science dans la langue arabe qui s'appelle ilm al-aswat. On étudie les sons. Donc tous ces imams, ils étaient sur l'aqida salafia. C'était des imams de la langue arabe et des imams de la salafia. Et l'égarement est venu par la suite, dans les générations après, quand les livres des philosophes grecs ont été traduits. À l'époque de l'Abbasiyyin. C'est de là où les dérives sont apparues dans notre communauté. À commencer par les dérives dans la croyance et l'apparition des sectes comme le Jahmiya et le Mu'tazila. Donc le début de cet égarement, c'était avec la traduction. Vous savez que les Arabes, ils ont traduit les ouvrages grecs avant les Occidentaux, avant les Européens. Là, ce n'est pas une qualité. Eux, ils citent ça comme une qualité des Arabes. Lakin, c'était la cause de la plupart des égarements. Et c'est ce qui est arrivé aux Juifs également. Beaucoup d'égarements, vous savez que chez les Juifs, il y a aussi des Mu'tazila, comme chez nous, exactement. Les mêmes raisonnements, soi-disant logiques, ils ont les mêmes. Et la cause, c'est la traduction des livres de Socrate et de Platon et d'Aristote et ainsi de suite. Yani, c'est les grands philosophes, les grands penseurs, la plupart d'entre eux étaient des homosexuels. Et la plupart d'entre eux étaient des non-croyants. Ils ne croyaient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'est-ce qu'on va tirer comme profit de leurs livres et de leurs ouvrages ? وقيل البصيرة العبرة كما يقال أليس لك في ذا في كذا بصيرة أي عبرة. Et le basira, ça a été expliqué par la leçon et la sagesse. والتحقيق العبرة ثمرة البصيرة. Et ce qui est plus juste, comme il dit l'imam al-Qayyim, c'est que les leçons et les sagesses sont les fruits de l'basira, et non pas l'basira elle-même. L'basira, c'est la science. Et la personne qui a la science, c'est elle qui arrive à méditer sur la chose et à tirer les leçons et les sagesses. Donc, ça, c'est les fruits de l'basira. Et à l'origine, l'basira est tiré de l'basar, de la clairvoyance. De la clairvoyance. Fal Qur'an ou basa'ir. Donc le Qur'an, il a été décrit comme étant des basa'ir, une clairvoyance. Ay adillatun wa huda wa bayanun yaqudu ila al-haq. Car le Qur'an comporte des arguments et des preuves qui guident et qui conduisent vers la vérité. Wa yahdi ila al-rushd. Wa li hadha yuqalu lit-tariqati min ad-dami allati yustadallu biha ala ar-ramiyya basira. فَدَلَّتِ الْآيَةِ. Donc ce verset indique que celui qui n'appelle pas avec basira ne fait pas partie des suiveurs du prophète alayhi salatu wasalam. Celui dont la da'wa n'est pas basée sur la science, il ne fait pas partie des suiveurs du prophète alayhi salatu wasalam. Et c'est ce qui est reproché, entre autres, à cette secte de Tablir. C'est qu'ils font sortir des personnes âgées, totalement ignorants, tout en délaissant leur famille, et ils les emmènent dans des voyages aux quatre coins de la terre. Cette personne, si elle fait un voyage, c'est pour aller apprendre la science, et non pas pour aller propager, car elle n'a rien à propager. Elle doit demander la science. Donc celui qui appelle les gens sans science, il ne fait pas partie des suiveurs du prophète alayhi salam. Et que ses suiveurs, les suiveurs du prophète alayhi salam, sont ceux qui appellent avec science. C'est pour ça que Allah a dit dans le verset « Ana wa mani taba'ani ». Le sens, j'appelle à Allah avec science, moi ainsi que ceux qui m'ont suivi. Ils appellent à Allah, vers Allah avec science. Et ici, il cite un détail un peu minutieux et précis concernant ce verset, car on peut avoir une autre interprétation de ce verset en nous basant sur des règles de la langue arabe. وإن كان معطوفا على الضمير المجرور في سبيلي, je vais essayer de le résumer et de le simplifier. وإن كان معطوفا على الضمير المجرور في سبيلي أي سبيلي وسبيل من اتبعني فكذلك. وعلى التقديرين فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله. Donc, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام, sa voix, c'est qu'il appelle vers Allah, c'est-à-dire vers la religion d'Allah. Ça, c'est clair. Ad'u ila Allah. Moi, ainsi que ceux qui m'ont suivi. Cette traduction donne le premier sens. Ainsi que ceux qui m'ont suivi, ils appellent vers Allah avec clairvoyance, avec basir. La deuxième explication, la deuxième interprétation, qui est possible également du point de vue de la langue arabe, c'est de dire que le prophète appelle vers Allah avec clairvoyance, c'est ça sa voix, ainsi que la voix de ceux qui l'ont suivi. Donc l'annexion, l'atf, il est fait sur la voix, et non pas sur la personne du prophète. Lakin, dans les deux cas, la voix du prophète et de ceux qui l'ont suivi, c'est qu'ils appellent vers Allah. C'est pour ça que tout croyant doit avoir une part dans ce bien et dans cette faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'appeler vers Allah subhanahu wa ta'ala avec science, selon ses connaissances. Et yani dans tous les domaines, la personne dans son entreprise, s'il voit une personne qui néglige la salat, il lui fait rappeler l'importance de la salat, il commence dans ses rappels, comme le Nabi sallam a enseigné dans Hadith Mu'ad. C'est pour ça que les savants appellent Hadith Mu'ad Hadith al-Da'iyya. Vous savez que le Nabi sallam a envoyé le grand compagnon. Regardez, le Nabi sallam, il va choisir qui pour aller faire la da'wah. Il n'a pas choisi un homme qui est entré en islam il y a deux jours. Il a choisi Mu'ad ibn Jabal. Mu'ad ibn Jabal, c'est un Médinois et non pas un Mécois. Il est entré en islam à l'âge de 18 ans. Il est décédé à l'âge de 36 ans. Mu'ad ibn Jabal, c'est le plus grand savant de cette communauté. Il viendra devant Allah subhanahu wa ta'ala en devançant les savants, tous les savants de cette communauté. Radiyallahu anhu. Nabi sallam l'a décrit en disant: Mu'ad ibn Jabal, a'lamu ummati bil halal wal haram. Celui qui connaît le mieux le licite et l'illicite. Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu. Donc c'est lui qui l'a choisi pour aller faire la da'wah aux gens du Yémen. Et les gens du Yémen, en grande partie, étaient des gens du livre. C'est pour ça qu'il lui a dit: « Ô Mu'ad, tu vas avoir affaire à des gens du livre. » Donc afin qu'ils se préparent, car les gens du livre, c'est des gens qui ont de la science. Ce n'est pas comme les ignorants de Mecca, les mushrikin, les païens et les polythéistes, qui n'ont pas de religion. Les gens du livre, c'est des gens qui ont une religion, et qui ont une science, et qui ont des ambiguïtés spécifiques à eux. Donc il doit se préparer et maîtriser ces ambiguïtés et comment les réfuter. Ça demande une science particulière. Ça demande une science particulière. Afin qu'il se prépare. Car parmi les fondements de la da'wa, c'est de connaître celui que tu appelles. Ça fait partie de la sagesse, de savoir à qui tu t'adresses. Tu t'adresses à quelqu'un qui a un très grand niveau intellectuel, même s'il est ignorant de la religion, qui connaît l'atome et l'électron et le neutron, ou qui n'y connaît pas la signification de Qul Wallahu Ahad. Tu dois tenir cela en compte, car en lui, il a un certain statut. Il ne va pas accepter que tu viennes comme ça, le casser, lui dire « toi, tu es ignorant ». Il ne va pas accepter la vérité à cause de ce comportement. Et ainsi de suite. Donc, on doit savoir à qui on s'adresse. Et savoir le discours approprié. Et quand est-ce que je vais l'appeler ? Tu ne l'appelles pas après une dispute avec son épouse. Il va peut-être rejeter la vérité à cause de son énervement, de sa colère. Donc il faut choisir le moment. Et aussi, il y a des moyens qui aident à ce que la personne accepte la vérité. Ton objectif, c'est qu'il accepte la vérité. Parmi les moyens qui aident à ce qu'il accepte la vérité, la douceur de ton discours. Un cadeau avant ton discours. Ça facilite et ça ouvre les cœurs. Ou là, un sandwich, l'inviter à un sandwich. Le Nabi alayhi salam avait recours à ses moyens et ses méthodes dans la da'wah. Il a donné à un homme plus d'une centaine de chameaux. Le Nabi alayhi salam a reçu une grosse fortune. 100 chameaux, c'est comme 100 millions d'euros aujourd'hui. Il a reçu tout ça et un bédouin qui est venu, qui n'était pas musulman. Nabi alayhi salam l'a appelé à l'islam, il lui a donné tous ses chameaux. Il est reparti dans sa tribu, il leur a dit, « Je suis venu de la part d'un homme qui donne les dons de celui qui ne craint pas la pauvreté. » Et c'est devenu un prêcheur. Car c'est un point qui le touche et qui lui parle directement. Donc tout ça, c'est important dans la da'wah. Mais d'une manière générale, da'wah doit être basée sur la science et ce hadith de Mu'adh radiallahu anhu. Le Nabi Assam lui a montré par quoi on commence dans la da'wah. On commence par Tawhid. Il lui a dit que ce soit la première des choses à laquelle tu les appelles, l'unicité d'Allah. Pourtant, c'est des gens du livre qui se disent monothéistes, mais ils n'ont pas la véracité du monothéisme. Ils se disent monothéistes, mais ils n'ont plus le monothéisme. C'est devenu des polythéistes. Ils croient en trois divinités, la Trinité. Et ainsi de suite. Il lui a dit, quand ils acceptent de toi l'unicité d'Allah, après, appelle-les aux 5 salawat obligatoires. S'ils les acceptent, seulement appelle-les à sortir la zakat et qu'elle doit être prise des riches parmi eux et distribuée entre les pauvres parmi eux. C'est pour ça la règle de base dans zakat, c'est qu'elle doit être distribuée dans le même pays. Dans le même pays, sauf exceptionnellement. Donc nous allons nous arrêter ici. Barakallahu fikum. Juste pour marquer le point sur lequel on s'est arrêté, c'est ce troisième point qui est al-basira. Et dans notre prochain cours, inshallah subhanahu wa ta'ala, nous allons parler du quatrième point qui est d'appeler selon ce que Allah a révélé. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Wallahu a'lam. وصلى الله على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته